La REF, la renaissance des entreprises de France, à l'air libre. Un événement organisé par le MEDEF les 24, 25 et 26 août, en direct de l'Hippodrome de Paris-Longchamp.
Rebonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Nous sommes le 24 août et on est en direct ici de l'Hippodrome de Paris-Longchamp. Et on a de la chance, nous avons un temps clément. Voilà, il ne pleut pas, il fait même plutôt bon. On est ravis d'être avec vous, nous sommes le 24 août. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure à l'antenne, cette première journée est dédiée à la francophonie, donc est rassemblée ici à l'Hippodrome de Longchamp l'ensemble des pays qui sont aujourd'hui francophones, et c'est plus de 200 millions quand même de francophones dans le monde. On est ravis d'être sur le plateau, toujours accompagné de notre journaliste reporter, Elodie Rabel. Ça va, Elodie ?
Ça va toujours, Sylvain, et vous ?
Eh bien, écoutez, je suis ravi d'être avec vous et nous avons beaucoup de chance et on les remercie. Ils sont sur le plateau. J'ai le plaisir d'accueillir le maire de Lausanne, Grégoire Junot.
Bonjour.
Bonjour, vous allez bien ?
Très bien.
Je suis ravi d'être avec vous. On va parler, bien évidemment, de votre bonne vieille ville de Lausanne, mais aussi de la Suisse plus généralement. Et nous sommes aussi ravis d'accueillir sur le plateau M. Willy Borsu, qui est le vice-président et ministre du gouvernement wallon.
Bonjour à tous les deux. Bonjour à mon collègue de plateau.
Comment allez-vous, Monsieur Borsu ?
Écoutez, très très bien. C'est-à-dire que c'est une journée qui se passe vraiment de façon positive, avec pas mal de rencontres, des entrepreneurs, on va avoir l'occasion de le dire, mais aussi avec des collègues et avec des gens engagés en faveur de la francophonie et surtout de projets concrets. Donc c'est en cela que cette journée n'est pas seulement ensoleillée à l'extérieur, c'est une journée positive, à tous égards.
En tout cas, merci messieurs d'avoir accepté le fait de passer sur ce plateau et d'expliquer à nos auditeurs. Alors on a beaucoup de questions qui ont été posées par les auditeurs, parce que vous savez, un peu la francophonie, c'est un peu la dent creuse dans le monde. On se dit, mais voilà, la francophonie, mais qui parle vraiment français ? On est toujours étonné du nombre de pays qui parlent le français dans le monde. Est-ce que ça vous surprend, vous, Grégoire Junot, de voir à quel point la francophonie est étendue dans le monde et dans tous les pôles ?
Non, ça ne me surprend pas. Disons, on connaît cette histoire. Effectivement, c'est maintenant un espace qui existe, qui est bien vivant aussi. Et c'est, je dirais, ce rôle-là aussi que nous remplissons. En tout cas, pour ma part, comme maire au sein de l'Association internationale des maires francophones, c'est de faire vivre aussi cette francophonie, pas seulement dans l'idée d'un passé colonial, parce qu'il y a évidemment beaucoup de ça quand on parle de la francophonie,
bien sûr,
mais de la faire vivre comme un espace économique, culturel, d'échange, de coopération. Et l'Association internationale des maires francophones est aujourd'hui un bailleur de fonds important en termes de coopération internationale.
Alors justement, Willy Borsu, la francophonie, je sais que vous y êtes particulièrement attaché. Vous avez une longue carrière politique et le fils d'agriculteur que vous êtes a su effectivement à la fois gravir tous les échelons de la politique. Vous êtes ce qu'on appelle un élu local et un élu tout court de terrain. La francophonie, ça vous tient à cœur ?
Oui, très fortement, non seulement personnellement, mais aussi la Wallonie, la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Belgique, plus globalement, sont vraiment engagés en faveur de la francophonie, en soutenant bien sûr l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, en étant impliqué dans certains de ses travaux, ce qui concerne le digital, l'intelligence artificielle, en soutenant l'Association des maires francophones ou TV5Monde, par exemple. Mais ce que nous souhaitons, c'est pouvoir aussi donner une vraie dimension économique. Bien sûr, beaucoup d'efforts sont déjà déployés. Je tiens à les souligner, que ce soit au niveau institutionnel multilatéral, que ce soit à travers ces rencontres, ou bien encore des contacts bilatéraux entre pays, entre régions, entre entreprises. Mais on a vraiment cette conviction, et elle transpire vraiment dans ces rencontres aujourd'hui, du fait qu'on peut vraiment changer d'échelle, on peut donner une dimension complémentaire à cette coopération dans l'espace francophone. Vous l'avez dit, je crois que c'est même 300 millions de personnes dans le monde, dont la langue principale usuellement parlée est le français. Mais il y a 800 000 personnes qui parlent aussi le français, ou notamment le français. Plus de 84 pays maintenant à l'OIF, et puis d'autres frappent encore à la porte, comme nous l'a rappelé la secrétaire générale cet après-midi. Ça veut donc dire qu'il y a une dynamique à créer. On a utilisé cette expression, le président du MEDEF, je pense, tout à l'heure, en parlant d'une sorte de Commonwealth, vous m'excuserez pour l'expression peu francophone, de la francophonie. Et je pense qu'on doit vraiment travailler en ce sens, avec aussi des concrétisations effectives de projets, de réalisation, de croissance, de pôles entre entreprises.
Alors, je vous propose qu'on résume avec Elodie les éléments majeurs de la francophonie, mais vous avez dit une chose, Willy Borsu, qui est très importante, c'est le renforcement de la coopération économique. Parce que, bien évidemment, j'allais dire, l'altérité dans le monde, dans le dessin du monde, aujourd'hui, face à des entreprises. Alors, vous avez bien compris, je parle de la Chine, je parle des États-Unis. La réunion des pays francophones et cette coopération économique est aussi une excellente alternative pour mettre en avant et en relief la francophonie. La francophonie, Élodie Rabel, en quelques mots.
Alors, le nombre de francophones dans le monde pourrait atteindre 770 millions d'ici à 2050. La francophonie aussi, c'est 16% du PIB mondial. Willy Borsu, dans votre discours d'ouverture aujourd'hui de la francophonie, vous avez dit quelque chose d'assez intéressant. Le français, c'est une langue, vous l'avez rappelé, qui porte des valeurs. Pouvez-vous nous rappeler lesquelles ?
Oui, c'est vraiment un élément que je voulais introduire aussi dans mon propos. Nous voulons évidemment travailler ensemble, commercer ensemble, investir mutuellement dans nos territoires, dans nos pays respectifs. Mais derrière cet engagement, il y a aussi des choix, il y a aussi des priorités, des principes. Que ce soit des principes démocratiques, d'attachement à un certain nombre de fondamentaux qui sont nos valeurs démocratiques, mais aussi... j'ai voulu souligner cet élément-là aussi. Il y a aussi une forme de commerce qui est un commerce fait de respect, aussi de l'économie, qui est une économie que l'on veut résiliente, économe en ce qui concerne l'utilisation des ressources, vraiment une économie qui participe à ces ambitions que nous avons en termes d'inclusion, en termes aussi de transition liée à nos enjeux climatiques. Et cette économie que nous voulons porter, ce commerce que nous voulons porter, c'est un message que je souhaitais partager avec mes collègues aujourd'hui, c'est aussi une démarche qui intègre un certain nombre de ces principes, de ces valeurs.
Alors, on a bien compris effectivement que l'artère fémorale de cette cohésion, l'économie, y est pour beaucoup. Grégoire Junot, comment vous, à la fois très engagé aussi, puisqu'effectivement l'Association internationale des maires francophones... Vous battez aussi pour ce combat, mais quelle est la place aujourd'hui, plus largement, alors votre ville en tant qu'élu local, mais de la Suisse en particulier au sein de la francophonie aujourd'hui ?
Bon, nous, on a un point commun avec les Belges, c'est qu'on vit dans un pays où on a plusieurs langues, et donc on doit aussi défendre notre langue. On est une minorité linguistique, économique par rapport à la Suisse alémanique, Suisse germanophone, qui est le centre économique et politique du pays. Environ un tiers.
Et on parle l'allemand et on parle l'italien aussi.
On parle allemand, on parle italien, on parle un petit peu le romanche aussi, mais le français est une langue qu'on doit aussi défendre. Et de ce point de vue-là, ça a évidemment une dimension identitaire forte quand même pour la Suisse francophone. Ça, c'est évidemment un point important. Après, au sein de l'Assemblée internationale des maires francophones, ce qu'on essaye de faire évidemment, c'est de. Si on défend les collaborations et les coopérations entre l'ensemble des villes membres du réseau, à la fois bien sûr entre villes du Nord, entre villes du Nord et entre villes du Sud, mais aussi entre villes du Sud en matière de développement.
Et ça, c'est primordial pour assurer l'avenir de la francophonie. Concrètement, comment l'association œuvre pour assurer cet avenir, développer la francophonie ?
Sur le plan climatique, sur le plan économique.
Disons, je pense qu'il ne faut pas se le cacher. L'Association internationale des maires francophones, ça a été, quand elle a été créée, une institution de la France-Afrique. Et puis, c'est quelque chose qui a évolué maintenant depuis de très nombreuses années pour devenir un bailleur de fonds en termes de coopération, un réseau de villes qui, en fait, est un des réseaux de villes importants au niveau international et probablement un des plus importants aussi parce qu'il bénéficie de moyens financiers considérable, une structure qui est bien en place, qui fonctionne et qui lui permet d'être effectivement un acteur en termes de coopération et de développement économique.
Et comment est financé
Alors par des fonds des États, notamment des États francophones, par des fonds de l'Union européenne aussi qui contribuent assez largement à des fonds de l'IMF et par une série de bailleurs de fonds internationaux qui font confiance à l'IMF dans son expertise en termes de solidarité internationale. Donc c'est devenu un acteur important de ce point de vue-là en termes de développement et puis c'est devenu un acteur important en termes de réseau de villes et de collaboration et de discussion finalement entre l'ensemble des villes de cet espace francophone.
Alors on a parlé beaucoup, vous avez le thème de la REF de cette année, on a beaucoup parlé des enjeux climatiques. Et il y a une entreprise que vous connaissez bien, Willy Borsu, qui est John Cockerill, qui fut même créée avant que la Belgique existe dans sa forme actuelle. Une entreprise qui a plus de 2 siècles. Même si c'est un peu un accident de l'histoire, il s'en est fallu de peu, Grégoire Junot, qu'on parle le français dans le monde, d'ailleurs, hein, au 19e siècle. Hein, on a été un petit peu croisés sur le poteau par les Anglais. Les enjeux climatiques, il n'y a plus de débat, on est d'accord là-dessus. Hein, il n'y a plus d'alternative. Il n'y a qu'une seule planète, une et indivisible. Ce qui concerne les uns concerne les autres. Moi, je vous pose la question à tous les deux. Je sais que vous êtes aussi très axés sur ce type de combat. À la lecture du dernier rapport du GIEC, plutôt déprimant dans sa lecture, quand on est aujourd'hui un homme politique comme vous, Hugues Borsu, dans un environnement singulier, particulier, comment aujourd'hui vous faites face à ces enjeux climatiques? Et je vais m'y aller franco. Est-ce que vous y croyez, vous, à la neutralité carbone en 2050?
Donc, tout d'abord, je réponds à la première question concernant le GIEC et son dernier rapport. Celui-ci, d'une part, confirme de façon plus grave encore un certain nombre de constats établis antérieurement. Et un seul mot, peut-être, pour dire qu'il y a extrême urgence à agir, à accélérer le mouvement, notamment en ce qui concerne la réduction de l'émission de gaz à effet de serre et d'autres évolutions de comportement. Deux, on le voit, nous n'avons aujourd'hui, on n'est pas confronté à un choix, peut-être faut-il, ne faut-il pas. Non, il est clair que nous devons, vous l'avez dit, il n'y a qu'une planète. Nous avons, si je puis dire, la chance, face à ces éléments de défis extraordinaires, d'avoir des évolutions technologiques, des recherches, d'avoir la mobilisation notamment de l'Europe, d'un certain nombre de pays, des engagements forts pris à travers les COP successives. On a rendez-vous dans quelques semaines à Glasgow à cet égard. Mais surtout, il est clair que vous avez cité des entreprises qui, avec des productions à travers l'hydrogène, à travers l'économie circulaire, à travers d'autres modes d'utilisation, j'ai parlé dans mon propos et dans mon discours tout à l'heure, de gestion plus économe des ressources, nous devons évidemment être des acteurs mais totalement déterminés de cette transition. Ce n'est pas une transition qui doit être une forme de régression sociétale, soyons bien clairs, mais on doit, me semble-t-il, pouvoir mobiliser autrement un certain nombre de comportements, de gestion de ressources, et bien sûr avoir...
Ça marche en Belgique, concrètement?
On a des trajectoires qui sont ambitieuses, hein, notamment en matière de renouvelables, de diminution de production de gaz à effet de serre, et puis d'autres indicateurs. J'ai aussi l'aménagement du territoire dans mes attributions, donc, notamment de diminution de l'artificialisation du territoire.
Bien sûr.
Donc il est évident que des mesures complémentaires, des efforts supplémentaires devront être faits chez nous, bien sûr, mais aussi ailleurs, si on veut vraiment atteindre ces objectifs.
Une question pour vous deux. Je voulais savoir comment la coopération francophone peut-elle peser justement dans les décisions politiques en faveur du climat.
Grégoire Junot. Alors, à la lumière aussi des enjeux climatiques qui attendent finalement tous les pays dans le monde entier.
Pour ce qui est de la ville de Lausanne, on a sorti un agenda climatique au début de l'année 2021, au début de cette année, qui est un agenda ambitieux, qui passe notamment par l'abandon de tout véhicule carbone en ville à l'horizon 2030, et par une sortie, effectivement...
Quand vous dites l'abandon de carbone en ville, c'est-à-dire que, par exemple, la circulation...
Tous les véhicules thermiques seront interdits à 2030.
D'accord.
Ça veut dire qu'on aura muté sur des transferts modaux ou sur une mobilité
électrique, hydrogène.
Ouais. C'est un agenda ambitieux, mais en même temps, c'est la condition pour respecter les accords de Paris. En matière de mobilité, on ne pourra pas respecter les accords de Paris sans sortie du pétrole. Bon, donc on a fixé un agenda ambitieux et on s'est, dans cet agenda-là, en fait, beaucoup inspiré de ce que d'autres villes ont fait ou projettent de faire, notamment Paris, qui évidemment a fixé des objectifs extrêmement ambitieux dans ce domaine et qui ont été un vrai modèle pour les villes en Europe et dans le monde. Montréal aussi a un agenda climatique très intéressant. Et ce qu'on essaye de dire finalement au sein de l'Assemblée nationale des maires francophones, c'est que les villes sont à la fois le lieu aujourd'hui où les problèmes climatiques se ressentent fortement, les îlots de chaleur, les questions de pollution bien sûr, de migration qui finalement sont aussi en partie liées à ces problèmes. Et qu'en même temps, le développement de la ville, la croissance de la ville est aussi une partie de la solution. Parce que le maintien de la biodiversité des sols passe aussi par une urbanisation qui se concentre sur les villes. On doit lutter contre l'étalement du territoire. Donc la croissance
civile... Donc la verticalité, plutôt ?
En partie.
La hauteur ?
Oui, pour une partie, mais en même temps, on voit bien quand les réalités urbaines dans le monde qui sont extrêmement différentes, hein, entre des villes africaines qui sont extrêmement étendues et très plates, des villes européennes qui ont parfois des espaces des patrimoniaux à préserver, compliqués, etc. Oui, en partie, c'est ça, mais disons, à l'échelle de l'agglomération, c'est effectivement de concentrer le développement sur la zone urbaine. Et ça, ça veut dire que les villes détiennent une partie de la solution à ces enjeux climatiques. Et de ce point de vue-là, le discours que nous souhaitons porter, c'est que les villes, aujourd'hui, doivent être des partenaires des régions, bien sûr, des cantons en Suisse, et des gouvernements nationaux, pour réussir cette transition climatique. On souhaite s'y engager, on a des agendas ambitieux, et il faut qu'on laisse aussi une certaine autonomie aux villes pour le faire, et pour qu'on puisse le faire ensemble.
Et vous, à Lausanne, comment s'est ressenti ce plan ambitieux au niveau de la population ? Parce que parfois, l'écologie, ça fait quand même grincer des dents. Hein. La fin de la voiture, ce n'est pas quelque chose de très populaire partout.
Vous avez des administrés qui sont convaincus ? Il y a une masse critique aujourd'hui qui est convaincue ?
Alors, on a lancé... il se trouve que ce projet-là a été lancé quelques mois avant les élections pour confirmer les majorités en place, donc qui portent aussi ce projet-là. Donc, globalement, je crois qu'il est... positivement accueilli. Moi, je pense qu'il y a comme très souvent, hein, on est parfois multiples dans ses identités. Hein. Tout le monde est aujourd'hui conscient qu'il y a un effort à faire, qu'il y a des enjeux à moyen et long terme extrêmement importants, qu'il y a une urgence à agir. Et puis, les gens sont parfois aussi automobilistes et voient aussi les difficultés. Donc, on est confronté évidemment aussi à cette réalité-là. Je pense que toutes les questions de mobilité en ville... en Belgique, en Suisse, partout dans le monde, sont des questions extrêmement compliquées qui suscitent des débats très vifs, parfois même assez violents, hein, on le voit aussi en France. Et en même temps, c'est vrai que c'est une des clés du problème, la mobilité.
Alors, vous avez une particularité, Grégoire Junot, avec Willy Borsus, c'est la configuration, j'allais dire, de la gouvernance politique de vos pays respectifs. Une confédération pour la Suisse, avec un multilinguisme qui règne aussi en Belgique, bien évidemment, c'est endémique, c'est pas comparable, bien évidemment, avec la France, mais je voudrais juste vous faire réagir, Willy, sur ce que vient de dire Grégoire, en même temps, à la lumière de ce que vivent aussi les élus locaux en France, notamment les maires de ville, qui sont, comme dirait un ancien ministre, à portée de claque de leurs administrés. Vous savez, ce sont ceux qui sont les premiers exposés là-dessus. Comme vous le savez, Grégoire Junot, puisque vous présidez l'association, vous savez que les élus locaux ne sont pas toujours à la noce en France, que la baisse des dotations, parfois... Donc on sait qu'entre les gouvernements fédéraux, le gouvernement tout court, il y a toujours des oppositions qui se créent. Willy Borsus, l'alternative politique d'une nouvelle gouvernance à l'aube des défis climatiques, des défis écologiques, des défis économiques, des transitions économiques qui sont parfois schizophrénantes parce qu'il faut convertir toutes ces industries qui étaient axées sur des énergies fossiles, de les amener effectivement avec... Comment vous l'abordez ? Est-ce qu'à votre avis, les maires de ville devraient être aujourd'hui, c'est un peu ce que dit Grégoire Junot aussi dans une certaine mesure, les premiers réexposés finalement et in fine, la volonté ne peut être que d'abord politique ?
Donc tout d'abord, je pense que donc en matière climatique, il y avait cette expression vraiment des pionniers en matière environnementaliste et climatique qui était de dire il faut penser globalement et agir localement. Je pense qu'il faut penser globalement et agir à tous les niveaux, que ce soit au niveau local, au niveau des États, au niveau international et à quelques niveaux de pouvoir que ce soit. Deux, on a cette situation en Belgique et notamment en Belgique francophone où le niveau, on dit chez nous les bourgmestres, mais ce sont les maires aussi, ce niveau de proximité est le niveau qui probablement a le plus de confiance encore de la population. C'est dans, si je puis dire, la hiérarchie de la confiance, ce niveau de proximité est encore le niveau qui est généralement, bien sûr, avec des nuances, le plus apprécié ou le plus positivement considéré par la population. C'est aussi le fait de cette proximité, avec les avantages qu'il représente, de pouvoir avoir ce contact direct avec les gens, avec leurs problématiques, avec le quotidien d'un certain nombre d'enjeux, et en même temps, à l'inverse, revers de la médaille, d'avoir aussi très directement les réactions, parfois vives, parfois virulentes, de nos concitoyens. La réponse en termes de gouvernance, ma conviction a toujours été que la meilleure réponse en termes de fracture entre les citoyens et les gouvernants, ou en termes de gouvernance, c'est les résultats. Ce sont les résultats.
Toujours.
Les gens sont légitimement en attente de concret, en attente de résultats. des belles démonstrations sous forme de discours, de phraséologie abondante, etc. Bien sûr, mais les gens ont besoin de percevoir, que ce soit au niveau d'une région.
Mais c'est bien le sujet du jour, Willy Borsu. C'est qu'aujourd'hui, on a, alors je prends l'exemple de la France que je connais le mieux, une vraie défiance à l'égard du politique aujourd'hui et une différence de perception qui devient très très problématique. Vous percevez pas la même chose en Belgique ?
Il est clair que dans la hiérarchie des fonctions et des métiers, le métier d'homme ou de femme politique en termes d'appréciation de nos concitoyens, chez nous aussi en Belgique, est situé
très bas.
Ou parmi les fonctions les plus basses dans l'échelle l'appréciation de la population.
C'est le cas en Suisse aussi hein.
C'est peut-être un petit peu mieux en Suisse, mais ça tient à différents facteurs, notamment à la démocratie directe qui fait qu'on vote extrêmement souvent, que la population est consultée.
Il y a beaucoup plus de votants qu'en France, en pourcentage.
Le pouvoir est très très partagé en Suisse. Hein. On ne gouverne que dans des coalitions en fait, de majorité, mais vraiment dans des logiques de... aussi bien au sein des exécutifs communaux que dans les cantons qu'au niveau fédéral, on a des élus de tous les partis qui gouvernent ensemble, donc on a une tradition de concordance, de recherche de consensus qui fait que probablement qu'on est un petit peu moins exposé à ces critiques. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas du tout non plus hein.
En France, c'est 1300 agressions de maires en 2020.
Ouais. Alors, je ne crois pas qu'il y en ait eu beaucoup en Suisse.
C'est une explosion en France. Hein. Non, vraiment. Ouais. C'est un vrai sujet. Hein. L'approche des élus locaux qui sont très exposés, encore une fois.
Après, il y a des différences institutionnelles aussi. Hein. Nous avons en Suisse, je ne connais pas bien le régime en Belgique, mais par rapport à la France, nous avons beaucoup plus de compétences au niveau local que n'en ont les élus français.
C'est clair. Justement,
on n'a pas cette dimension, fort heureusement, que vous décrivez, hein, que vous observez en France sous forme d'agression, etc. On a par contre une véritable pression à travers notamment les réseaux sociaux, bien sûr. Avec des expressions très, très directes parfois.
On a de gros débats demain là-dessus, sur le sujet.
D'ailleurs, est-il possible de gouverner à l'heure des réseaux sociaux ?
Alors justement, on va en parler. Si vous permettez, j'ai encore deux questions et je sais que votre agenda est compliqué. J'ai deux questions. Comment on fait pour loger tout le monde dans une urbanité dans laquelle la démographie croît, avec des villes moyennes qui tirent d'ailleurs très bien leur épingle du jeu ? Bon, Dixit, le Covid, bien évidemment. Les Français, comme les Européens, ont découvert, les statistiques sont éloquentes, l'idée de l'espace, du vert, de l'air, de quelque part une vie plus apaisée, à l'heure où on désartificialise les sols. Nécessité, vous avez fondamentalement raison. Comment on fait lorsqu'on est un gouvernant, un élu ? Et Dieu sait que la question n'est pas simple. Pour l'aménagement du territoire, compétence que vous avez, Willy Borsu, justement, et vous, Grégoire Junot, pour loger tout le monde. Alors, verticalité ou latéralité, il faudra un moment choisir.
Je pense que le champ ne sait pas être binaire. Et d'autre part, il faut aussi tenir compte, évidemment, dans un dialogue avec la population, des aspirations de nos concitoyens. On ne va pas décréter qu'on va subitement urbaniser en bloc et verticalement les villes ou les cœurs de villes, ce qui ne correspond pas non plus aux attentes des habitants des villes. Je pense que c'est un mixte, effectivement, qu'on doit rencontrer de verdurisation, de végétalisation, d'espace. On observe aussi
les statistiques. Mais vous n'êtes pas favorable à l'étalement urbain, Willy Borsu ?
Absolument pas favorable à l'étalement urbain. Dans notre accord du gouvernement, celui que nous avons négocié, il y a effectivement la fixation d'une trajectoire pour diminuer l'artificialisation des sols. Vous savez que nous venons de connaître malheureusement de terribles inondations en Belgique.
Dramatique.
À l'instar de ce qu'on a rencontré en Allemagne notamment. Et chez nous, ce débat est un débat qui est effectivement extrêmement vif et légitimement, non seulement concernant la trajectoire de diminution de l'artificialisation, mais aussi la façon d'urbaniser différemment, la perméabilisation des sols, la végétalisation, bref, tout ce qui peut être fait pour en même temps protéger nos concitoyens, la priorité, et organiser un bâti qui soit en même temps un bâti plus résilient et accueillant, et qui reste accueillant et qui correspond à l'aspiration des gens. On a aussi la chance, si je puis dire, entre guillemets, d'avoir une densité dans le sud de la Belgique qui est une densité qui reste, entre guillemets, moyenne par rapport à un certain nombre d'autres situations.
Donc il y a des leviers qui permettront effectivement de...
Il y a des leviers, et le premier levier est d'abord l'explication, l'information, la conviction.
Bien sûr.
Et puis, effectivement, il y a des leviers alors d'incitation, d'encouragement et puis de limitation.
Grégoire Junot.
Bon, on a la chance dans une ville comme Lausanne, et c'est vrai aussi d'autres villes suisses, mais d'avoir encore des réserves de territoire en zone urbaine. Donc on peut à la fois être relativement conservateur sur les quartiers
habités. Il y a du foncier, encore du foncier.
Et en même temps avoir une politique assez ambitieuse en termes de développement urbain. En tout cas, on pourra le faire en tout cas pour les 15 prochaines années. Peut-être qu'après, la question se posera différemment. Mais
vous êtes sur une démographie positive.
Aujourd'hui, on est sur une démographie positive. En tout cas, avant Covid, le Covid évidemment modifie un peu les équilibres pour quelque temps. On a beaucoup moins d'immigration, mais on était sur une démographie positive. Et on a de gros projets immobiliers, d'éco-quartiers, qui sont des projets très stimulants aussi du point de vue d'innovation à la fois immobilière et environnementale, et en termes de mixité sociale aussi, et que nous pouvons porter tout en étant assez conservateur quand même et pas trop agressif sur le territoire déjà bâti en ville, parce que comme ça a été très justement dit, développer un urbanisme, c'est aussi développer un urbanisme que les gens veulent. On ne peut pas développer une ville ou développer une région contre ses habitants. Donc on doit réussir à concevoir, à porter un projet de développement qui emporte l'adhésion de tout le monde.
C'est clair. Elodie, vous déposez une question, ça sera notre dernière question d'ailleurs, sur les réseaux sociaux.
Oui, je voulais savoir comment ça se passait chez vous. Où j'ai vu dans La Libre, un journal belge, qu'un élu avait carrément démissionné après avoir reçu des torrents d'insultes sur sa gestion. Vous évoquiez ce phénomène dramatique des inondations. C'est, même si on n'a pas le même genre d'agression chez nous en France, nous, les élus, comme l'a dit Sylvain, sont à portée de claque. Les réseaux sociaux, pour vous, représentent une véritable pression qui pousse parfois jusqu'à la démission d'un bourgmestre.
Effectivement. Hein, donc,
c'est une nouvelle forme de démocratie digitale. C'est quoi les réseaux sociaux alors?
Donc en même temps, effectivement, l'information que vous communiquez est exacte. Je connais cette situation de démission d'un bourgmestre à Dinan, en fait, et d'autres qui font état d'une pression permanente, très immédiate aussi, anonyme dans un certain nombre de cas, et injurieuse, et parfois lourdement injurieuse vis-à-vis de mandataires, notamment locaux. Donc en même temps, nous avons ce qu'offrent les réseaux sociaux, positivement, à la fois ces relais d'information, d'échange, d'expression, cette espèce de forum permanent, de débat sur un certain nombre de sujets, ça c'est plutôt la face positive, bien sûr, des canaux de communication qu'utilisent abondamment les élus, les mandataires, en ce compris les élus locaux, à destination notamment de leurs concitoyens. Et puis, il y a l'inverse, cette espèce de café du commerce anonyme où tout est dit, parfois sans fondement et d'une façon parfois brutale.
Et sans filtre.
Et sans filtre. Je pense qu'il y a probablement des questions à se poser par rapport au fait de pouvoir, comme ça, sans le moindre filtre, de façon anonyme, et parfois vraiment avec une injustice.
Mais comment réagissez-vous? Est-ce que ça justifie de démissionner? Juste une pression qui est virtuelle, finalement?
Chacun réagit humainement. Oui,
mais quel est votre point de vue? Est-ce qu'on devrait quand même, un politique, quelqu'un qui a été élu, doit-il en gros savoir tenir un peu la baraque et faire face à des insultes en ligne?
C'est-à-dire que, d'une part, même avant les réseaux sociaux, tout qui a une vie publique est exposé évidemment à une forme de pression, exposé à la critique, fondée parfois, et puis dans certains cas totalement injuste ou totalement non fondée. Mais évidemment, les réseaux sociaux ont donné à cela une dimension, une publicité jusqu'alors inédite. Et puis chacun réagit alors suivant à la fois ce qu'il est personnellement, suivant la pression, suivant parfois l'émotion. Et il faut dire, et on peut le comprendre évidemment, eu égard à ce que les gens ont vécu ou vivent encore, que la période Covid, les restrictions de déplacement, etc., ajoutées alors, en ce qui concerne le drame que nous venons de vivre, à la gestion des inondations, tout
bien
ça
sûr
a représenté beaucoup. Je ne veux absolument pas juger ni une décision positive ou négative que prend un mandataire, mais vraiment la pression est là, oui. Il faut en être conscient.
Voilà, vous devez partir. Juste, ce soit cette question, les réseaux sociaux pour vous, c'est...
Disons, la vie politique est devenue probablement plus violente en raison de l'immédiateté des réseaux sociaux qui ont joué un rôle là-dedans. Après, c'est à chaque élu aussi de savoir s'il est prêt à accepter ça. Hein. Moi,
bien sûr.
Comprends aussi très bien qu'il y en ait qui disent j'ai pas forcément le cuir assez épais pour
tolérer
tout ça.
Des torrents d'insultes.
Et les élus sont pour beaucoup aussi en Suisse pas toujours professionnels, souvent des miliciens, etc. Je pense qu'il y a aussi un degré de choses qu'on peut tolérer ou pas. Et je peux comprendre, même si c'est évidemment très regrettable, mais qu'à certains moments, certains tirent la prise.
C'est clair.
En disant, moi, je ne suis pas prêt à ça. Je veux dire, la fonction publique est une responsabilité, c'est un honneur, c'est un plaisir aussi. C'est bien un métier qu'on fait par choix, hein, évidemment.
Sûr.
Mais en même temps, c'est aussi une
charge. Il faut
en
accepter les...
Il y a aussi des limites à ce qu'on est en mesure d'accepter.
Dorénavant, vous pensez que si on brigue un mandat électif, il faudra se préparer à la violence en ligne?
Il faudra.
Je pense qu'il faut s'y préparer, mais en même temps, la richesse de la vie politique, c'est aussi la diversité de ses élus et on ne doit pas pouvoir tout accepter non plus.
Merci beaucoup pour votre passage, en tout cas.
Merci à vous.
Et de ces précieuses informations. À retrouver, bien évidemment, Grégoire Junot. Je rappelle que vous êtes le maire de Lausanne et le président de l'association...
Membre du bureau,
de l'association.
Madame Hidalgo, la présidente.
Voilà, oui, c'est Madame Hidalgo. Elle nous pardonnera. Membre du... Peut-être que je prophétise, d'ailleurs. Pourquoi pas. En tout cas, membre du bureau de l'association internationale des maires francophones. Merci à Willy Bourtu, vice-président du gouvernement wallon et ministre aussi, d'être passé par le plateau de Radio Territoria. A tout de suite.
La REF, la renaissance des entreprises de France à l'air libre. Un événement organisé par le MEDEF à réécouter et télécharger sur le site et l'application radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.